Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et j'ai aujourd'hui pour un nouvel épisode dans le bunker consacré à des films et séries sinon toujours de guerre, du moins qui traitent de l'univers guerrier, donc j'ai le plaisir de recevoir Quentin de la chaîne YouTube Sur le Champ. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, je vais la présenter en quelques mots pour dire que c'est une excellente chaîne YouTube d'histoire militaire et non seulement d'histoire mais aussi d'analyse stratégique et tactique de différentes batailles, de différentes campagnes. Pour se faire une idée, je veux dire que certains des derniers épisodes ont été consacrés par exemple à la phalange de Hoplite, à la grande stratégie viking ou à la bataille de Sadova. Et à chaque fois, c'est extrêmement bien fait, notamment visuellement, et très instructif. Je vais simplement ajouter que ça me paraît vraiment très important, ce genre d'initiative et de médias, parce qu'il y a un public qui est vraiment important, curieux et intéressé pour de l'histoire militaire de qualité, et qui ne tombe pas dans les travers, disons, nationalistes, de la manière dont on a fait parfois de l'histoire militaire. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de refaire 300 fois les batailles de Napoléon pour prouver à chaque fois que c'est un génie militaire. Il y a d'autres choses intéressantes à étudier. Je place ça au passage, parce que Dieu sait qu'on va en manger cette année avec la célébration du bicentenaire de sa mort. Et par ailleurs, je suis bien placé pour dire que l'histoire militaire est une discipline qui est dans une situation un peu compliquée d'un point de vue académique et universitaire en France, pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer, mais disons que c'est une situation qui date pas d'hier. Et donc je trouve vraiment indispensable de multiplier les médias et les canaux de transmission de ces connaissances et sur ces sujets-là, et de les mettre en valeur. Et je suis donc particulièrement ravi de vous recevoir. Donc bonjour et bienvenue dans le bunker du Collimateur.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Et vous êtes ici aujourd'hui pour parler d'un film récent, voire très récent, puisqu'il est sorti il y a un peu plus d'un an. Je pense d'ailleurs, je m'en souvenais assez bien parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était probablement un des derniers films que j'ai vu en salle avant la grande claustration des salles de cinéma. C'est le 1917 de Sam Mendes, film sur la Première Guerre mondiale, sur l'épopée, les tribulations de deux soldats britanniques à travers les champs de bataille du Pas-de-Calais pour porter un message à une autre unité afin d'éviter à tout un bataillon de se jeter dans un piège tendu par les Allemands. Alors, je vais dire que c'est un film que j'attendais énormément quand il est sorti, à cause du sujet, parce que c'était évidemment un beau thème, mais aussi parce que Sam Mendes, qui est un très grand réalisateur, American Beauty, Skyfall, Spectre, mais aussi Jarhead, dont on a parlé il y a quelques mois dans le bunker, et qui me semble être un très très grand film de guerre. Et donc, je l'attendais beaucoup, mais je vais confesser, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, Quentin, que j'ai été assez déçu. Alors certes, visuellement, c'est assez frappant, parce que ça a été filmé, alors je vais dire pour ceux qui l'ont pas vu, mais ça a été filmé pour donner l'impression d'être en un seul plan séquence, avec une caméra qui suit les personnages sans coupure, mais j'ai trouvé d'abord de gros problèmes scénaristiques et historiques, dont on reparlera peut-être probablement, et bon, finalement, j'ai eu l'impression que c'était une grosse machine qui tombait peut-être un peu à plat. Mais dites-moi, donc, ce qui vous a intéressé, vous, dans ce 1917 de Sam Mendes, ce qui vous a donné envie d'en parler?
Alors je vais prendre mon temps pour essayer d'expliquer le truc, parce que c'est un de ces films qui personnellement, j'en ai plusieurs qui me font cet effet, c'est quand je les regarde sur le moment, je suis content, je me suis grossièrement laissé prendre par le film. C'est immersif, c'est un peu le mot-clé qui a été associé à 1917.
Et déjà vous l'avez vu en salle ou...
Ouais, je l'ai vu en salle.
Alors je vais dire, je l'ai revu du coup pour préparer. C'est pas bien de le revoir sur petit écran.
Oui,
en salle, c'était voilà. Bien bon sur petit écran. C'est bon,
mais voilà,
bon
du coup, film en salle. En plus, c'était un de mes premiers films de guerre, action, ambiance depuis longtemps. Donc vraiment, je me suis... La première partie, moi j'ai envie de dire le premier plan de rentrer dans la tranchée, je suis rentré dans le film direct. Donc à partir de là, je me suis un peu laissé porter. Et c'est typique, il y a vraiment des films qui me font ça. Je sors de la salle, je suis content, et après, une décroissance de mon appréciation du film pendant deux semaines, j'y repense. Et à la fin des deux semaines, je suis passé au sortir de la salle, c'était pas mal, à, mais en fait, c'était nul. Et donc, ça m'a un peu...
Mais alors, est-ce qu'ensuite, est-ce que la courbe remonte?
Non, elle n'est pas remontée. C'est ça le problème, en fait. À y repenser, je me rends compte que... Enfin, je me suis rendu compte, et en plus j'ai retravaillé le film, du coup c'est encore pire. Je me suis rendu compte qu'il y avait non seulement, d'un point de vue historique, rien qui n'allait, et en même temps, d'un point de vue artistique, cinématographique, en fait la forme est, selon moi, une erreur. Et du coup, on est un peu... c'est un peu schizophrénique de ma part de dire j'ai été pris dedans et en fait non. Ça a marché, l'illusion a marché jusqu'à un moment précis, d'ailleurs je vais en parler parce que c'est important, quand il tombe de la cascade.
Donc à la toute fin.
Hein. Vers la fin. Là, c'est... Mais alors, j'étais déjà en train de sortir du film.
Donc
j'étais...
on va préciser, c'est vraiment à la fin de ça, etc. Il y a un moment où il saute dans un pont et il arrive dans une rivière, il se laisse porter dans une rivière, il est sur le point de se noyer, etc. Bon, c'est, par ailleurs, c'est une rivière qui n'existe pas dans cette région-là.
Alors justement, c'est ça, c'est une cascade en Picardie. Attendez les gars, non. Et là, ça va plus du tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, la courbe a commencé à descendre. C'est avant que je sorte. Même si en sortant, j'avais encore envie d'y croire. Donc, je ne sais pas comment on peut travailler ça, mais en gros, déjà, on va commencer par la partie relation.
Attendons-nous, ouais. Peut-être, on va parler, parce qu'il y a plein de problèmes historiques et tout. Mais commençons par ce que vous avez dit à l'instant, que la forme est une erreur. Alors, pourquoi est-ce que cette forme, qui est très particulière, on va dire, bon, je suis pas fan non plus, on l'aura compris, on va démonter le film pendant le temps de l'émission, ça paraît assez clair. Mais c'est beau. C'est une photographie par Roger Deakins, qui est un très grand directeur photo, qui a eu un Oscar d'ailleurs, pour 1917. Et c'est donc cette illusion de plan séquence, de caméra qui suit les combattants sans jamais s'interrompre, même si on peut repérer quelques coupures en fait. Alors pourquoi est-ce que ça vous convient ou convient pas? Parce que ça a été présenté comme le tour de force de ce film.
Bah en fait c'est super beau, ça il n'y a pas à en douter, la mise en scène est millimétrée, on a vraiment... Mais en fait, comme tout tend vers l'immersion, on se fait plonger dans une bulle qui tant qu'on y reste... fonctionne par rapport à la pression, mais ne fonctionne pas par rapport à tous les autres sentiments qui sont présentés dans le film. Par exemple, je vais divulgâcher, forcément, mais la mort du camarade du personnage principal, personne n'y croit. Je n'ai rien ressenti d'autre que « Ah merde, il y a des morts !» Et c'est terrible parce que c'est quand même tourné d'une manière assez... qui devrait être intense. On sent que le réalisateur, là, il veut nous dire quelque chose. Parce que, bon, ça, faut le dire aussi dans la mise en scène, c'est très christique. On a le baptême dans le Jourdain, suivi de la chanson chantée comme dans une tradition britannique anglicane, on voit bien qu'il y a quelque chose d'un peu l'homme face à son horreur, l'homme face à l'immensité du monde, enfin toutes ces choses-là, de manière assez christique. Mais en fait, on s'en fout. Enfin, c'est assez terrible. Et je pense que le plan séquence y est pour beaucoup. Il n'y a pas de coupure. Et comme il n'y a pas de coupure, la seule chose qui reste, c'est l'ambiance. Et l'ambiance ne dit rien d'autre que ce toit pesant qu'est la Première Guerre mondiale sur les individus qu'on suit.
Je vais faire un... par pur esprit de contradiction, parce que je suis d'accord. Mais il y a un truc quand même de suivre ces personnages qui font ce grand fantasme de la Première Guerre mondiale du poilu, du type qui réussit à s'extraire de la tranchée, puisque bon, on sait que c'était une guerre d'interface où on se pilonnait, et c'est avec ces No Man's Land qui étaient un peu infranchissables. Et il y a une sorte d'accomplissement du fantasme de sortir de cette tranchée, de passer les lignes ennemies, et enfin de pouvoir voir de l'autre côté, pouvoir parcourir un peu ce territoire qui est normalement complètement interdit, c'est pas inintéressant de penser, d'avoir choisi ça comme étant l'espèce de fil conducteur, parce que sinon, et on peut dire, mais pour de bonnes raisons, la plupart des autres films de la Première Guerre mondiale, c'est, on se regarde, on se pilonne, etc. C'est très haché, alors que là, il y a une continuité, c'est l'idée qu'on va pouvoir enfin passer les lignes de part et d'autre.
Mais en fait, c'est un peu le côté totalisant de un seul plan séquence. Moi, des plans séquences, ça me dérange pas. Le plan séquence pour rentrer dans la tranchée est incroyable. Le plan séquence pour sortir de la tranchée, traverser le No Man's Land, ça fonctionne vachement bien. Mais ne pas faire de coupure, ne jamais sortir de ces phases, parce que on va arrêter de se mentir, temporellement, ça ne fonctionne pas. Et du coup, on se retrouve avec des moments où il y a des ellipses, mais la caméra te le dit pas. Et enfin, notre cerveau, il suit un petit peu quand encore une fois, le camarade meurt. Genre 3 secondes plus tard, tu entends les soldats britanniques arriver à côté d'un autre régiment qui passe et il va pouvoir monter dans le camion. D'où il les a pas entendus jusqu'à ce qu'ils soient définitivement morts. C'est une ellipse. C'est acceptable. S'il y a une coupure, c'est acceptable. Il y en a pas. Donc, on est dans cette immersion fausse. Et le problème de ces moments faux, c'est que ça nous fait sortir de ce sentiment. Le moment où il tombe sur la française dans le village, très bizarre. En fait, on ne sait même plus ce qu'on doit ressentir à ce moment-là. On est un peu paumé parce qu'il vient de se réveiller en s'étant fait tirer dessus par l'Allemand. Il a été sauvé par son casque. Et il y a... On coupe complètement avec l'ambiance précédente. Mmh. Et avec un montage, on aurait pu faire un sas de décompression. Et là, non.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est le problème du plan séquence, c'est que ça implique d'avoir une histoire qui s'y prête, et là, il y a quand même besoin, il y a tellement d'intensité qu'il y a besoin de couper l'intensité, et effectivement, le plan séquence le permet pas, au moins théoriquement. Alors, on va peut-être parler maintenant du fond, en quelque sorte. Alors, on peut dire que c'est un mouvement, donc c'est 1917, on va dire qu'il y a des grosses incohérences. L'histoire globale, c'est ce moment où les Allemands se retire d'une assez large partie du front en Nord-Pas-de-Calais et où ils décident de se placer derrière une ligne fortifiée qui s'appelle la ligne Hindenburg. Donc ils abandonnent un grand bout de terrain sur lesquels les Alliés vont pouvoir progresser et l'idée des Allemands c'est de s'arrêter là, de consolider leur position pour pouvoir mieux la défendre. Bon, ça c'est le pitch et donc l'idée, le scénario original du film, c'est l'idée que un bataillon va tomber dans ce piège de la ligne Hindenburg et que donc il faut traverser tout ce terrain nouvellement libéré par les Allemands, mais quand même bien piégé, voilà, et puis bien dangereux, etc., etc., pour avertir ce bataillon avant d'aller dans ce piège.
You have a brother in the 2nd battalion.
Yes, sir.
They're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre.
Ok. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est crédible et est-ce que la manière dont c'est représenté, ce passage-là, est quelque chose qui aurait pu se passer à ce moment-là et ou de cette manière-là?
En fait, il y a plein de choses qui ne vont pas. Je sais pas comment le ranger. En fait, c'est un film particulièrement frustrant parce qu'il y a un énorme effort sur le décor. Où on peut dire... Ça m'a fait penser d'ailleurs un peu au film The King sur Netflix, où tu vois qu'il y a un effort sur le déguisement, on va dire. Où on essaie de faire exister le monde de cette époque. Mais à côté, historiquement, on passe à côté de tout. On dit n'importe quoi. Et là, c'est un peu ça. Bon, déjà, ils ont décidé de mettre ça 2 ou 3 mois après. Peu importe, ça, c'est en avril, c'était en février-mars, c'est pas très grave. Mais faire croire qu'il y a que 2 mecs qui peuvent remplir cette mission, non, c'est n'importe quoi. Faire croire qu'on en a quelque chose à faire d'un bataillon qui s'est engagé alors qu'on lui a pas donné l'ordre, non, c'est n'importe quoi. À l'époque, le bataillon... Soit on a l'occasion d'aller le rechercher, mais en avançant toute la ligne, soit, tant pis mon gars, là c'est juste pas possible.
Oui, on n'était pas particulièrement précautionneux de la vie humaine
non,
en 1917.
Non, surtout les Britanniques, surtout les Britanniques, ceci dit, ils étaient pas, c'était pas leur délire, quoi. Un bataillon, c'est quoi? 1500 hommes, à l'époque? Quelque chose comme ça? Je suis pas sûr. Bon, alors acceptons le fait qu'il y ait que 2 mecs, que... l'aviation soit pas capable de repérer le terrain, qu'on n'en envoie pas plus, qu'il n'y ait pas un minimum d'aide sur la... Alors peut-être pas la motorisation, mais d'autres éléments. Là, les mecs sont envoyés dans une terra incognita totale.
Oui, c'est-à-dire, disons que c'est l'absurdité du budget base. C'est-à-dire, ils n'auraient probablement pas essayé d'envoyer des gens, et s'ils avaient essayé de vraiment faire parvenir l'information, il y avait d'autres moyens. Il y avait des avions, il y avait des pigeons voyageurs, il y avait que sais-je encore. Et il y avait plein de moyens qui étaient utilisés pour communiquer sur le front.
Puis même le bataillon ne se serait pas séparé comme ça. Il aurait au moins tiré une ligne de télégraphe. Le commandant est particulièrement incompétent pour se retrouver aussi isolé. Et puis pour croire qu'avec un bataillon, il va réussir à transformer le repli allemand en déroute. Ça, en fait, déjà, le scénar ne tient pas. Déjà, la mission n'existe pas. Bon.
Et alors ensuite, la manière de représenter ce front, ce no man's land, ces lignes, ces tranchées, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous vous êtes dit qu'il y avait un truc quand même dans la... Alors si ce n'est dans le scénario, mais au moins dans la monstration quoi, de ce que pouvait être la Première Guerre mondiale? Ou est-ce que même là, ça ne collait pas?
Dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il y avait des efforts. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont très rarement, pour ne pas dire jamais montrées dans la Première Guerre mondiale, qui là, pour le coup, étaient montrées... que ce soit les barbelés, une vraie plaie pour une fois, là on voit une blessure de barbelé, c'est très rare. Qu'on voit, moi, c'est des détails, hein, c'est vraiment, on voit à un moment un officier regarder sa montre avant un assaut. C'est un détail, mais ouais, c'est un des éléments qu'on retrouve beaucoup dans la première guerre. Mais derrière, il y a plein de choses qui vont pas. Encore une fois, un peu à cause du plan séquence, typiquement l'artillerie qui se retrouve à 500 mètres de la ligne, non. On va me dire, c'est pas très grave, mais ça pose problème. Et après, c'est toutes ces étapes, comment je pourrais dire, je sais pas comment structurer le truc, mais typiquement, l'assaut à la fin, c'est un assaut de 1914, c'est pas un assaut de 1917. On fait pas ça en 1917, on fait plus ça.
C'est-à-dire l'assaut où tout le monde sort de la tranchée sort,
et se rue. Et chacun pour sa peau. Et si vous arrivez dans la tranchée allemande, essayez de planter des Allemands avec votre baïonnette. Alors déjà, ça n'a pas existé. Mais en plus, c'est vraiment des assauts qu'on fait en 1914, pas en 1917. En 1917, on a fait des progrès, quoi.
Si on a survécu jusqu'en 1917, oui. C'est qu'après, a priori, on a appris à pas faire ça.
Bah c'est, mais même au-delà de l'individu, il y a des doctrines qui ont énormément évolué. Les Britanniques, les Britanniques, leur armée a complètement changé en 3 ans. Et ils ont réfléchi, quoi. Ils se posent des questions sur comment on fait pour planifier une attaque, ce qui rend encore une fois le scénar de base... un peu bizarre, une attaque non planifiée, en fait, ça se fait plus.
Oui, par ailleurs, on peut dire que c'est tout bête, hein, mais il y a un truc qui est très absent de cette dernière partie du film, par exemple, c'est justement l'artillerie, vous en parliez à l'instant, c'est-à-dire on sait que tout assaut est préparé par un pilonnage, et ce qui fait que toute cette dernière partie un peu onirique, où il y a un truc de calme avant la tempête, où on va chanter des chansons ensemble dans un calme religieux juste avant l'assaut... Non, probablement qu'il y avait d'énormes canons dans tous les sens qui essayaient de pilonner la ligne allemande pour essayer de la prendre. Enfin, je veux dire,
Et puis, l'artillerie en face, je sais pas si vous voyez, mais quand il sort de la tranchée, qu'il court, il y a des tirs d'artillerie au milieu des Britanniques. Il y en a. Enfin, c'est assez fatigant ce truc de. Il y a que si l'obus te tombe dessus que tu meurs. Non, en fait, ça c'est un petit peu plus douloureux que ça. C'est des dégâts de zone beaucoup plus violents. Et ça donne l'impression que finalement c'est, comment on dirait, chirurgical. C'est encore chirurgical. Alors qu'en fait, non, les obus à shrapnel, c'est plusieurs mètres carrés de terrain que ça balaye. Les obus hautement explosifs, c'est plusieurs mètres carrés de terrain que ça déblaye. On a des cas de mort sans blessure, juste à cause des effets de pression de l'explosion. La personne meurt avec des lésions internes. Alors, notre héros, il est mort une bonne quinzaine de fois dans sa course, en fait, parce qu'on fait exploser des obus, avec les effets spéciaux, évidemment, à côté, comme des petites gerbes, ça passe pas trop. Bon, mais...
Non, mais ça, c'est intéressant aussi, parce que ça renvoie à quelque chose qui est très matériel, qui est le terrain, c'est-à-dire, c'est le fait, les paysages, il y a un paysage au tout début, qui est très bien fait, c'est le paysage entre les tranchées, où on voit ces espèces de paysages un peu lunaires, qui sont très caractéristiques des tranchées de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire un truc où il y a tellement d'obus qui sont tombés partout que, en fait, c'est même plus un paysage, quoi. C'est des monts et des vallées, enfin, c'est complètement irreconnaissable. Mais sinon, effectivement, on a un terrain qui est de temps en temps criblé d'une petite rafale de mitraillette, d'un obus, mais qui fait pas trop de dégâts. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment l'idée de ce que pouvait être cette espèce d'entreprise massive de démolition d'un territoire qu'a été la Première Guerre mondiale. Quoi.
Bah après, il le justifie en disant que c'est la zone laissée par les Allemands. Ceci dit, quand vous regardez la tranchée qu'ils ont creusée, ils disent en une nuit. Hein.
Ouais.
Non, tu creuses pas ça en une nuit. En plus, c'est dans du calcaire. C'est même pas juste de la terre. Déjà, j'invite tout le monde à essayer de creuser dans la terre pour voir ce que ça fait. Mais alors, en plus, le calcaire, ils ont eu le temps de bien s'installer. C'est dérangeant, c'est un peu ce côté presque jeu vidéo où tu cliques et tu mets ta tranchée dans tes préparations parce que t'as la vue du dessus et puis voilà, c'est fait. Non, c'est pas magique, en fait, ça prend du temps et il y a de la planification et il y a tout un système de logistique et de liens avec un état-major. Et tout ça, c'est effacé pour un énième récit de personnages qui va traverser ça et qui va y survivre bon an mal an, bon parce que c'est le personnage qu'on suit, mais en fait on est très loin de la structure organisationnelle qui permet aux soldats de survivre et en même temps qui fait que le soldat prend lourd parce que justement il y a des obus, c'est une entreprise de mort, quoi, une entreprise de mort et de destruction qui est très rationalisée. Et ça, on le voit pas. On est beaucoup plus dans le sentimental. On envoie un soldat pour sauver son frère, pour sauver 1300 hommes qui se sont isolés face à un piège, d'ailleurs, qui passe pour un espèce de stratagème machiavélique des Allemands. Alors qu'en réalité, c'était plus une réflexion réaliste du genre, bon, bah, on va construire notre tranchée vraiment au top en arrière, et une fois qu'elle sera prête, on se repliera. C'était pas du tout prévu pour attirer une attaque et arriver à faire s'embrocher les adversaires sur les mitrailleuses.
Ouais.
C'est un peu gênant. D'ailleurs, pardon, hein, mais faut qu'on parle des Allemands dans le film. Ça, c'est un truc, moi, je plains les Allemands de pas avoir la même machine cinématographique pour pouvoir parler de leur expérience de la Première Guerre mondiale. C'est un peu dur. On rencontre... Alors, c'est un choix de Sam Mendes de faire que l'adversaire est loin, est invisible. Ça, je trouvais ça plutôt bien sorti. Mais les 3-4 Allemands qu'on rencontre, c'est pas des gens. Ils sont à fond, quoi. Le pilote se fait sauver. Hop, il donne un coup de poignard, tel le fanatique.
Donc ça, rappelons, c'est intéressant, parce que Sam Mendes essaye d'introduire la nouveauté radicale qu'est l'arme aérienne dans le plot. Donc il y a un avion qui se fait abattre. Et là, les deux héros sortent le pilote allemand, puisque ce sont des Anglais, donc ils sont forcément très humains et généreux. Et le pilote en assassine l'un des deux. Il en poignarde un. C'est pas forcément effectivement le truc le plus réaliste. C'est à tout prendre, quand il y a une situation de capture de prisonnier, a priori, c'est pas le prisonnier qui tue les gens qui le capturent.
Oui, en plus, alors, en fait, pourquoi pas. Mais il y en a un deuxième, un jeune qui se fait attraper. Et le héros lui dit, chut, dans toutes les situations, tous les soldats se taisent, ils veulent survivre. En fait, un être humain veut survivre, qu'il soit soldat ou à la limite, on peut les endoctriner. Mais en fait, on tombe dans une vision presque Seconde Guerre mondiale. Et ils n'ont pas de chance, les Allemands, dans ce film. En 1917, ils ont un casque qui ressemble à celui de la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont plus leur casque à cornes à pointe qui fait qu'on peut les dissocier. Du coup, ça fait très nazi. Enfin, ça fait très Wehrmacht, Seconde Guerre mondiale, qui est là et... ils sont fanatiques, ils sont à fond. La silhouette allemande dans la ville en feu, normalement, elle s'enfuit aussi, elle a peur de la même manière. En plus, elle sait qu'elle est isolée, parce qu'elle sait que son armée, elle s'est repliée. Ah non, lui, il lui fonce dessus, il lui tient dessus. Enfin, tous les Allemands qu'on rencontre ne sont pas des humains.
Mais ça, c'est par ailleurs, c'est un grand problème de la représentation de la Première Guerre mondiale. On en avait parlé il n'y a pas très longtemps avec André Loez au sujet de Wonder Woman. C'est un vrai problème de la machine hollywoodienne qui dépeint les Allemands de la Première Guerre mondiale de manière assez similaire à qu'il n'est pas un peu comme des nazis, hein, d'une manière
mais
ou d'une
autre. C'est super dur pour eux. Enfin, personnellement, le livre qui m'a le plus touché de la Première Guerre mondiale, c'est À l'Ouest rien de nouveau, et c'est un livre du point de vue allemand. Et pour le coup, ça m'a fait beaucoup d'effets. Je l'ai lu quand j'étais plus jeune, mais... De ce côté, ah ouais, mais en fait, ils ont vécu la même expérience. Hein. On n'est pas du tout dans un conflit, on va dire, très idéologisé d'un point de vue politique, comme le nazisme contre le communisme ou la démocratie libérale. On est sur un truc beaucoup plus nouveau, beaucoup moins, enfin presque moins politisé, si j'osais dire. Et du coup, les soldats allemands, ils vivent le même traumatisme. Et l'Allemagne ne peut pas en parler. Elle n'a pas le droit d'en parler. Alors, essentiellement aussi, parce qu'elle a fait la Seconde Guerre mondiale, donc il y a des problèmes, mais je l'ai plaint d'être dépeint comme ça tout le temps. Je trouve ça super dur. Et en plus, ça résonne avec tout un pan de la propagande britannique de l'époque de la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous voyez l'affiche du gorille avec le casque à pointe pour défaire le 1. Alors, c'était les 1 ou les bêtes, les Allemands. Et là, on retombe un peu dessus. Il y a un peu ce côté... cet humain qui n'en est pas un, cette lutte de la civilisation contre la barbarie, qui était d'ailleurs la dialectique de l'Allemagne contre ses adversaires aussi à l'époque. Mais...
Oui, mais il y a un côté, disons, symétrique dans la Première Guerre mondiale qui, de fait, disparaît dans beaucoup de productions culturelles. Bon, par ailleurs, on peut ajouter, encore une fois, on va tempérer, hein, je vais essayer de tempérer un peu, mais le fait que c'est... Il y a des choses qui sont bien faites, notamment... les décors sont bien faits, les uniformes sont, paraît-il, très bien faits. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de... Je sais pas, j'appelle ça de temps en temps la boutonologie, mais il y a des... Enfin, c'est très intéressant, il y a des gens qui sont très très compétents pour ça, etc. Et là, il semblerait que ce soit globalement plutôt bien fait, qu'il n'y ait pas d'erreur marquante dans le film, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Parfois apparemment il y a des absurdités, là en l'occurrence c'est pas le cas. Donc il y a quand même un effort de véracité historique dans les décors, dans la précision des costumes, etc. Et bon, voilà quoi, c'est un peu, il y a une sorte de décalage quoi entre ça et le fait qu'on est sur une histoire de fond qui, on l'aura compris, n'est pas extrêmement crédible quoi.
Bah c'est presque ce qui rend le film pire. En fait, j'aurais tendance à plus en vouloir à 1917 qu'à des films qui ne prétendent même pas être très historiques. Il y a un peu ce côté que ça rend le public crédule et ça lui fait emmagasiner des choses un peu naturellement parce qu'il y a un discours derrière, forcément. Même s'il n'est pas conscient de la part du réalisateur, il y a un discours. Et à la fin... Ah bah ils ont fait des efforts sur le décor, ah bah il y a des beaux uniformes, donc c'est que c'est historique. Et là tout à coup on enregistre plein de choses qui en fait ne vont pas du tout. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Mais dans le même temps, c'est un des rares films à présenter plein d'aspects de la Première Guerre mondiale qui passaient sous silence. Je vais te parler du Barbelé, on a le côté guerre souterraine, même si c'est léger. Bon bah voilà, il y a ce moment à l'intérieur de la tranchée allemande avec l'explosion, avec cette peur de d'étouffer, de tout ça. Ouais, c'est une réalité de la Première Guerre mondiale qui est rarement abordée. Montrer un parc d'artillerie, même s'il était trop près de la ligne, c'est rarement montré. Là on avait les cimetières de Douille, qui étaient quand même impressionnants. Donc en fait il y a un effort, mais cet effort rend les erreurs presque plus dommageables, plus dangereuses d'un point de vue imaginaire collectif.
Ouais, enfin, on va peut-être préciser que, pour sortir avec un peu d'espoir, d'abord, ça reste intéressant, ça reste visuellement frappant, notamment quand on le voit, je le dis, je le répète, sur grand écran, espérons que ce sera à nouveau possible un jour. Mais y a un truc d'immersion, c'est très beau, il y a plein de qualités. Puis bon, on peut dire que si on veut voir un bon film sur la Première Guerre mondiale, il y a aussi Les Sentiers de la Gloire de Kubrick qui est quand même un peu mieux. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de... C'est pas comme si c'était le seul film là-dessus. Il y a d'autres bons films, voire meilleurs films sur la Première Guerre mondiale. Ça, c'est un effort qui est un projet auquel tenait beaucoup Sam Mendes, puisque c'est dit à un moment, je crois, c'est à la fin, que c'était le grand-père de Sam Mendes qui a vécu une histoire relativement similaire. Alors pas exactement la même chose, on a compris que c'était pas possible, mais une histoire relativement similaire, donc c'est un projet personnel important pour Sam Mendes. Bon, voilà, ça a été très annoncé, ça a été une assez grosse déception, on l'aura compris, déjà pour nous, mais même, il n'y a pas reçu autant de récompenses que le film l'attendait. Bon, espérons que ce sera mieux la prochaine fois.
Oui, mais de toute façon, en fait, c'est toujours ça. À partir du moment où on redescend, et que je sors un peu de la critique, c'est pas un travail d'historien. C'est un film. Donc bon, il y a des choses bien. Effectivement, c'est immersif. Nous, on en parle parce que ça nous permet, en fait, c'est une porte d'entrée pour parler de l'histoire. Mais ça a espéré de voir de nouveaux films qui aborderont peut-être d'autres choses, peut-être moins ambitieux dans la forme pour montrer des espaces de fond un peu plus précis. Et puis, c'est comme tout. Ça a nourri le débat. Ça nourrit... Et puis, finalement, comme je disais, au départ, j'ai passé un bon moment.
Très bien. Merci beaucoup, Quentin. Je renvoie donc évidemment tout le monde à votre chaîne YouTube Sur le Champ, où j'imagine qu'on verra bientôt des choses sur la Première Guerre mondiale, puisque je vous ai fait travailler dessus. J'imagine que ce sera réinvesti d'une manière ou d'une autre sur des vidéos prochainement.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.